Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 11 juin 1992 à Saint-Jodar.
Reviens sur ce que nous disions la dernière fois, et puis nous passerons au problème de l'un et du multiple. C'est simplement pour bien préciser ces positions extrêmes de l'être et du devenir. Ce qui a été le premier problème philosophique. Pouvez dire, si vous voulez, comment l'intelligence est arrivée à se poser le problème de l'être. C'est quand même un problème qui demeure très actuel. Est-ce que la philosophie première a-t-elle de citer, au contraire, doit-elle être évincée? Rappelez-vous le problème de Nietzsche. Quand Nietzsche dit qu'il y a deux choses qui pour lui sont insupportables, la métaphysique et la compassion. C'est intéressant de voir que pour lui, ce sont les deux griefs principaux qu'il fait au christianisme, d'avoir maintenu la métaphysique et la compassion, du côté de l'intelligence, du côté de la volonté, les deux extrêmes. L'affirmation du non-être et de l'être brise dialectiquement ces deux affirmations, donne la naissance du devenir. Donc c'est le devenir qui est principal. C'est le propre de la pensée dialectique. Une pensée dialectique. Le point de vue de la croissance est la chose principale. On est tout le temps dans la croissance. On est tout le temps dans le devenir. Vous voyez la différence entre croissance et devenir. Le devenir, c'est au niveau d'un langage marqué par la réalité non vivante, la réalité physique, et la croissance, c'est la réalité physique vivante. Alors, devant cet enfouissement de l'être, celle de Wolf, celle que Kant aussi rejetait. À réponse Heidegger n'est pas valable. Alors il faudrait reprendre la position de Merleau-Ponty aussi. Il y aurait là trois positions intéressantes à voir, qui sont pour nous la pensée. Le problème tel qu'il s'oppose. Alors, il y a encore une autre position. Lucidité et essayer de faire comprendre que la cette connaissance scientifique. La connaissance scientifique, il ne faut pas la rejeter, il ne faut pas la mépriser. Heidegger la méprise, souverainement. Ce n'est pas le bon procédé. Puisque pour lui, penser l'être n'a rien à voir avec la science. Pour lui, la science ne saisit rien de l'être, donc de la réalité. Puisque seule la pensée découvre l'être. Donc le devenir n'existe pas. Mais la vieille position d'Héraclite, vieille position de Parménide, c'est commun avec Parménide et Héraclite, c'est très curieux. Il n'y a pas de science du devenir. Il n'y a pas de connaissance certaine du devenir. Donc le devenir est complètement irrationnel. Le hasard commande tout ça. C'est curieux, hein, parce que la position de Mono, c'est ça aussi. Hein. Le hasard commande le devenir. Donc ce qui veut dire que le devenir pratiquement est inintelligible. C'est pour ça que quand on affirme uniquement la connaissance scientifique, cette science scientifique, c'est le serpent qui mord sa queue. Et on voit qu'au terme, affirmer qu'il n'y a qu'une connaissance scientifique, c'est affirmer qu'il n'y a plus de connaissance. Donc on est dans le bon plaisir du prince. Et le bon plaisir du prince, on sait ce que ça veut dire. Au moins en France. C'est vieux, Machiavel. Donc, on aboutit à une absurdité. Et alors, ces deux positions extrêmes, Heidegger et le positivisme, aboutissent l'une et l'autre à supprimer le devenir. C'est intéressant parce que ça montre bien qu'au fond, le devenir, nous pouvons l'accepter dans son intelligibilité que si on a découvert l'être. C'est la connaissance métaphysique de l'être qui sauve le devenir. Et alors, vous retrouvez la fameuse définition d'Aristote, qui n'est pas une définition. Le fameux jugement d'Aristote. Ce qui devient, ce qui est mu, c'est l'entelecheia, donc l'acte de ce qui est en puissance, en tant qu'il est en puissance. Donc vous voyez que pour donner l'intelligibilité de ce qui devient, on parle de l'acte, donc de l'être, et on parle de la puissance. Ce qui montre bien que le devenir en lui-même, pris en lui-même, est inintelligible. Alors, prenez ces deux positions extrêmes. Le positivisme et Heidegger. C'est comme ça, je crois, qu'on doit regarder Heidegger. C'est ce qu'il y a d'intéressant de Heidegger. C'est que pour lui, la connaissance scientifique ne dit rien de ce qui est. Seul, penser l'être en niant tous les étangs permet d'avoir une certaine intelligibilité. Autrement dit, il faut s'échapper de la caverne au sens platonicien. Il faut s'échapper du monde pour découvrir l'être. C'est une position qui est très enracinée, vous savez. Je connais certains thomistes qui n'hésitent pas à te dire qu'au fond, la physique d'Aristote, aboutissant à la nécessité de poser un premier être qui ne soit que mauvais, poser le problème de l'être. Alors que je crois que c'est l'inverse. Il faut découvrir l'être pour découvrir l'âme spirituelle. Il faut découvrir l'être pour poser l'existence de Dieu. Donc vous voyez, cette position de Heidegger, elle est formulée par Heidegger d'une façon extrêmement nette. C'est l'intérêt de Heidegger. Heidegger est notre nouveau Platon. C'est pour ça qu'il ne peut pas le supporter. Parce qu'il est tellement proche de Platon. Vous voyez, épistémologiquement, il est tellement proche de Platon. C'est vraiment sortir de la caverne pour découvrir l'être. Penser l'être. Donc c'est une position très très enracinée qui est au fond la position néoplatonicienne. C'est que la réalité ne me dit rien. Je découvre tout dans mon esprit. Pas besoin d'expérience. Pas besoin de regarder la nature. Pas besoin de regarder l'aigle. Ça ne m'avance à rien. Pas besoin de regarder les petites fleurs sur la montagne. Tout ça, ça n'existe, ça m'avance absolument à rien. L'être, je l'ai en fermant les yeux et en cogitant intérieurement. Je l'ai dans le cogito. Cogito, le cogito de Descartes, c'est penser l'être. Il y a un progrès entre cogito et penser l'être. Mais au fond, c'est le même sillage. Je ne peux penser l'être qu'en me coupant complètement de tout devenir. Le devenir, c'est le domaine des déviations, de l'errance. Je ne sais plus où je vais. Mais c'est une position très, très radicale dans la philosophie de considérer que le devenir, ce qui est mu, n'a aucune intelligibilité. Et la grande découverte d'Aristote face à Platon, la grande découverte que nous devons faire face à Hegel, si nous sommes fidèles à notre maître Aristote, c'est de découvrir l'intelligibilité du devenir. Et comment Aristote découvre-t-il l'intelligibilité du devenir? Il découvre l'intelligibilité du devenir en posant les contraires et le sujet existant. En comprenant que c'est ce qui est mu et non pas le devenir qui intéresse le philosophe. C'est la réalité mue qui intéresse le philosophe. Donc, le jugement d'existence, la réalité mue. Et non pas, j'abstrais les deux contraires. Et le fruit des deux contraires, qui n'est plus le sujet, mais le devenir lui-même. Donc, on formalise le devenir. Saisir dans conférence aujourd'hui, vous décrivez merveilleusement le devenir de l'embryon. Vous découvrez la naissance. Vous découvrez que l'enfant grandit et à un moment donné devient plus grand que ses parents. Il dépasse d'une tête. Il arrête la regarde d'en haut. Et vous découvrez comme ça jusqu'au moment où la teinte va au plateau, puis ça commence à descendre, et puis ça dégringole très rapidement. Bon, vous pouvez décrire ça, et vous découvrez tous les moments. Est-ce que vous découvrez l'homme? Non. Vous découvrez le devenir de l'homme, et pas plus. Vous découvrez le devenir de l'homme comme vous découvrez le devenir de l'aigle. Mais vous n'allez pas plus loin. C'est le devenir. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Alors, à ce moment-là, vous devez dépasser le devenir. Et le devenir pur et simple, sans le jugement d'existence, en regardant que le devenir permet une description, mais ne permet pas de dire ce qu'est l'homme. C'est pour ça que quand je m'enferme dans le devenir, je ne saisis plus l'âme, je ne saisis plus l'esprit. Je devrais seulement demander à ceux qui décrivent l'homme comment ils décrivent l'homme, qu'est-ce qui en eux décrit l'homme. Alors, ils seraient obligés de reconnaître que c'est la science biologique. Et la science biologique est-elle matérielle? Est-elle liée au monde physique, au monde sensible? Ou est-ce que la science physique, comme telle, n'est-elle pas universelle? Le signe de l'esprit. Scientifique reconnaît qu'il y a une certaine nécessité des lois et donc qu'il y a l'universel. Et si l'universel existe, c'est le signe que l'esprit existe. Donc là, il faut montrer la destruction du positivisme, que le positivisme a un a priori affectif de la négation d'esprit. Alors que, en tant que positiviste, il affirme l'existence de l'esprit. Ça, ça les fait rugir. Mais il faut les agacer par là. Vous voyez, c'est comme des cendres qui sont au-dessus d'un feu. Avec un tison, vous secouez les cendres, puis tout d'un coup, il y a une petite flamme. Alors qu'il n'y a plus rien du tout. Alors quelle est la petite flamme? C'est l'universel. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. C'est l'universel, l'être de raison, qui montre que l'être est avant le devenir. Et qu'il est présent dans cette description du devenir. Donc vous voyez, en face du positivisme, je prends le bulldozer de la critique. Je sais que c'est ça. Pourquoi? Parce que le positivisme n'est pas scientifique. Il est idéologique. C'est une idéologie. Donc c'est une décadence de la philosophie. Un vrai savant n'est pas positiviste. Un vrai savant, il est où? Mathématicien, amateur. Où? Il décrit avec beaucoup d'intelligence. Mais je dis bien avec beaucoup d'intelligence. Donc, il ne s'agit pas de nier l'intelligibilité du devenir. Il s'agit de le saisir avec très belle vieille position parménide et qui est le contraire du positivisme. Toutes les deux, pratiquement, l'une exalte l'être au mépris du devenir, l'autre enferme l'être dans le devenir. Donc deux positions contraires. Et ces deux positions sont inacceptables au plan philosophique. Mais c'est très important de les détecter. Il faut avoir suffisamment d'intelligence pour voir. Ah oui, oui, voilà. On retrouve une vieille tendance. Héraclite, Parménide. Et aujourd'hui pour nous, Hegel. L'expérience pour saisir vous saisissez qu'il y a en vous une intériorité, même cette intériorité émue. La vie implique une croissance. Votre intelligence, même votre intelligence, implique une croissance. Il nous faut des malades pour que nous existions. Et alors, ceci provient, mec, et tu dis ce que c'est que l'angoisse. L'angoisse, c'est du côté affectif. Le primat du devenir, plus que le primat du devenir, l'absolu du devenir. Alors, nous allons maintenant, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps, nous allons maintenant regarder un nouveau chapitre très intéressant, plus facile. Le problème de l'un et du multiple. Vous voyez, et le problème de l'un et du multiple ne nous permet pas de sauver la métaphysique. Parce que je me souviens, c'était Remacher, qui était professeur à Louvain, qui venait faire une conférence à Fribourg sur la métaphysique. Je ne dis pas tout ce qu'il disait, ça restait dans ma mémoire parce que c'était très amusant. Il comparait le problème de l'un et du multiple au sac de pommes de terre. Il y a beaucoup de pommes de terre et c'est un sac de pommes de terre. C'est le problème de l'un et du multiple. Un sac de pommes de terre, c'est un sac de pommes de terre. Et il y a beaucoup de pommes de terre dedans. Alors, expliquez comment la multiplicité des pommes de terre font un sac de pommes de terre. Vous savez, tout le problème de l'un et du multiple dans le sac de pommes de terre. Ou bien des carottes, si vous aimez mieux. Hein. Parce que c'est peut-être... Il y a beaucoup de carottes et c'est un sac de carottes. L'enveloppant et l'enveloppé. L'enveloppant est un. Comme enveloppant, sauf si il crève. Il craque. Alors toutes les carottes s'en vont. C'est la chute des pommes de terre, des carottes. Il y a l'enveloppant et l'enveloppé. L'enveloppé est multiple et l'enveloppant est unique. Mesure, mesurée. Écrivez avec le problème de l'un et du multiple. Se ramène à la mesure mesurée, si vous le prenez comme ça, descriptivement, parce que c'est tout à fait descriptif, hein, c'est très descriptif, hein. Tout le monde peut connaître ça, même le gosse, dites ça à un gosse, explique-moi un peu, tu vois, il y a un sac de pommes de terre, et puis, il y a des quantités de petites pommes de terre, alors comment ça se fait? C'est le gosse, je vous ai déjà dit, c'est le gosse qui est première leçon d'arithmétique. Le professeur dit 1 et 1, 2, mais non, 1 et 1, 1. Alors sa mère lui envoie une balle, puis une seconde balle. Tu vois, une balle plus une balle, ça fait deux balles. Ah oui, mais le professeur n'a pas dit une balle plus une balle. Il a dit 1 et 1. Additionner l'indivisible. Bon. L'indivisible plus l'indivisible, c'est l'indivisible. Alors il faut dire une pomme de terre plus une pomme de terre, ça fait deux pommes de terre, et le sac de pommes de terre contient deux pommes de terre. Tandis que quand elle est seule, c'est pas un sac de pommes de terre, il n'y a qu'une pomme de terre. Bon, le problème de l'un, ça c'est l'apéritif de l'un et du multiple. Le problème de l'un et du multiple, selon Remacher, devait être le premier problème philosophique grâce au sac de pommes de terre. Et c'est vrai que pour les néoplatoniciens, pour Platon et les néoplatoniciens, le problème de l'un et du multiple, c'est le problème. grecque, on peut dire qu'il y a la métaphysique de l'homme, ou si vous aimez mieux, la philosophie première de l'homme. Et c'est Aristote, historiquement, qui a dit non, l'un est le multiple, c'est second. Alors il y a cette expression extrêmement belle d'Aristote, qui est très belle, il dit l'un est acolyte de l'être. Alors, vous voyez tout de suite l'acolyte, l'un est l'acolyte. Alors l'acolyte il court devant, ou il court par derrière, ça dépend. S'il n'a pas pris le bon tournant, il est obligé de tourner par derrière. Dans les processions, c'est ce qui arrive. Quand vous voyez que le premier se trompe, alors il court après, parce que les autres suivent. Enfin, les autres ont pris la bonne voie. Donc, il est ou devant ou derrière. Acolyte. C'est le terme grec. Acolyte. De l'être. Alors, comment Aristote a-t-il dit ça? C'est intéressant historiquement. Pour Hegel, le problème de l'un et du multiple devient fondamental. Premier, c'est le tout. Et le tout ne peut se comprendre que par l'un et le multiple. Parce qu'est-ce que c'est que le tout? Ben, c'est le sac de pommes de terre. Le tout. Puisque le tout implique le multiple, et l'un dans le multiple, c'est ça le tout. Alors si vous mettez le tout comme ce qui est le terme vers lequel toute votre philosophie tend, la synthèse est un tout. Si vous avez une philosophie qui veut être systématique et qui veut aboutir au tout, bon, l'un est premier. Et là, les multiples aboutissent au tout. Alors, comment Aristote va-t-il faire devant cette philosophie extraordinairement forte de Platon? C'est vrai, elle est très forte. Comme qu'est-ce que nous allons faire en face de cette philosophie si forte de Hegel qui séduit exactement comme la philosophie de Platon? C'est pas le même. J'allais dire, Platon est plus réaliste que Heidegger, que Hegel, plus réaliste, moins fort. Il y a une force étonnante dans Hegel, c'est pour ça que c'est si séduisant. Parce que on ramène tout à l'un. On ramène tout au tout. C'est le tout. Alors comment allons-nous faire pour dépasser cela? Alors je regarde Aristote, puisque il a tracé une voie. Alors il prend tout simplement, c'est toujours ce qu'il fait, d'abord le langage. Dire Pierre est un homme. Et Pierre est un homme. Vous voyez, c'est deux choses tout à fait différentes. Et dans le langage, ça se confond. Quand je dis que Pierre est homme, et quand je dis que Pierre est un homme, quelle différence y a-t-il? Le langage est un signe. Mais c'est un signe. Il y a un signe intéressant. Pour le grec, le logos, le langage contient le logos. Le logos est plus que le langage. C'est pour ça qu'on ne peut pas traduire logos par le langage ou par la parole. Mais le langage et la parole impliquent un logos. Mais le logos est plus. l'individuation. Pierre se distingue des autres. Il est un homme, il se distingue des autres. Si Pierre était unique sur son île, Romain Crudoux, seul, est-ce qu'il dirait qu'il est un homme? Mais non, il dirait « Je suis l'homme ». Regardez-moi, je suis l'homme, je suis unique. S'il dit qu'il est un homme, c'est à cause de la multiplicité des autres qui t'ont. Pour ne pas se perdre dans le tout, je suis un homme, distinct des autres. Et quelle est votre distinction? Ah, j'ai ce signe caractéristique, c'est que je suis intelligent. Les autres, je ne sais pas. Mais c'est qu'au fond, on se dit, on cherche aussi une caractéristique. Qu'est-ce qui me caractérise dans le monde aujourd'hui? Les gens qui se caractérisent par l'extérieur ont horreur de l'habit. Parce que c'est commun. Les gens qui se caractérisent de l'intérieur n'ont pas peur de l'habit. Ça, c'est intéressant à creuser. Parce que l'habit me met dans le tout. Je rentrerai dans le tout. Tant que je n'ai pas l'habit, je ne suis pas entré dans le tout. L'habit uniformalise. Ils ont tous le même habit. Oui, c'est ça le propre. Alors, ils se confondent. Ah non, parce que leur distinction est intérieure. Et pour celui qui met toute sa distinction sur l'extérieur, prendre l'habit, c'est terrible. On perd toutes ses distinctions. On perd toute son originalité. On fusionne. Et on perd donc ce qu'on est. Et comme c'est curieux, toujours le problème de l'indumultiple. Alors Aristote montre que dans le langage, on montre quelque chose de différent. Quand on dit Pierre est homme, Pierre est un homme. On le distingue des autres. Donc, si on distingue des autres en disant Pierre est un homme, l'unité est seconde par rapport à l'être. Le langage montre que l'unité est toujours quelque chose de second, jamais quelque chose de premier. Parce que quand vous dites Pierre est homme, vous restez dans, j'allais dire, l'individualité de Pierre, ou plus exactement, le caractère spécifique de Pierre. Vous regardez son être. Il est. Et en disant il est homme, vous caractérisez ce qu'il est. Et quand vous dites que Pierre est un homme, vous ne caractérisez pas ce qu'il est. Mais vous l'opposez aux autres. Vous regardez son individuation et non plus son être. Vous regardez donc sa quantité. Il est divisé des autres. Il est séparé des autres. Je crois qu'on peut facilement découvrir ça dans le langage. Le langage indique donc que l'être est premier et que l'un est second. Il faudrait voir si dans toutes les langues c'est comme ça. Je crois. Dès qu'apparaît le verbe être, alors le verbe être apparaît différemment dans les différentes langues. Ça, c'est aussi une chose très curieuse, mais c'est très intéressant. C'était... l'être qui apparaît en latin et en grec. En grec, l'être apparaît tout de suite. En latin, l'être apparaît beaucoup après. On regarde d'abord l'action. Les latins regardent l'action. C'est l'aspect politique, l'aspect juridique, l'aspect militaire. Les romains, l'action. Le grec regarde ce qui est. C'est curieux que dans la langue, c'est ce qu'il disait, Emerson, qui regardait en premier lieu, en grec, l'être apparaît en premier lieu. En latin, le verbe être est tardif. Il faut déjà une certaine évolution. C'est le verbe marcher, travailler, dormir, être éveillé, qui est premier, qui indique l'action. Tout verbe indique l'action. Le verbe être se sépare de l'action pour indiquer simplement il est.